Nous allons prier. Seigneur, nous avons vraiment beaucoup de joie à être devant toi. D'abord parce que tu es celui qui a fait toutes choses, parce que tu es le Créateur, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es éternel, parce que nous avons eu la grâce de te découvrir, mais aussi parce que nous savons ce que tu es pour nous personnellement. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu deviens notre Père personnel. Et tu es ce Père avec un cœur de mère, ce Père qui nous console, qui nous relève, qui nous fortifie, qui est près de nous, qui est dans nos vies, Seigneur. Ça, c'est vraiment pour nous un sujet de joie, un sujet de reconnaissance, Seigneur, c'est ce que tu es dans nos vies, c'est que tu nous rencontres, c'est que tu nous connais, c'est que tu nous visites, c'est que, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Nous te louons, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cela. Et nous voulons, Seigneur, aussi te louer, te bénir parce que ton esprit est là, au milieu de nous, en nous déjà. Et ton esprit, Seigneur, nous instruit, nous conduit. Nous savons aussi, Seigneur, que ton esprit nous permet de te connaître mieux, de croître en toi, de croître dans ton amour, et qu'il le fait au travers des Écritures qu'il a inspirées. Merci, Seigneur, parce que le Saint-Esprit a inspiré les textes que nous allons lire maintenant. Et merci parce qu'à chaque fois que nous ouvrons cette parole dans un esprit de prière, tu t'adresses à nous. Alors c'est notre prière, Seigneur, au moment d'ouvrir ta parole, c'est que ton esprit puisse justement s'adresser à nous, qu'il puisse éclairer nos pensées, nos intelligences, et que tu puisses nous rencontrer intimement, personnellement, dans ce temps de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui va se faire maintenant soit une offrande de bonne odeur devant toi, que ton nom soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé, exalté, Père, et que tu nous permettes tous, les uns et les autres, d'avoir des cœurs ouverts et disposés à recevoir ce que nous allons rencontrer dans ta parole. Seigneur, c'est vraiment notre prière. Nous te disons, Seigneur, parle, car tes serviteurs écoutent. Nous te disons, Seigneur, adresse-toi à nous. Amen. Bonjour à tous, bonjour à chacun, à chacune. Et évidemment, puisque nous ne sommes pas en dehors de la société, donc évidemment, bonne fête des mères à toute bonne fête des femmes finalement. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons nous intéresser à la vie d'une maman, à la vie d'une femme, justement. Alors nous allons faire une lecture dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er. Et là nous allons tout simplement lire l'entièreté du premier chapitre du livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er. Où il est dit ceci: Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le courant de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. » Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Nous allons nous pencher sur la vie de Anne, qui est donc la mère de Samuel. Le texte que nous avons lu se trouve au tout début du premier livre de Samuel. Et c'est un passage de la Bible où nous avons la présentation de l'entrée en scène du dernier juge d'Israël. Alors vous savez qu'avant Samuel, il y a le livre des juges qui nous raconte l'histoire de tous ces hommes qui ont été responsables d'Israël pendant un temps de crise. C'était un temps de crise et donc il y avait tout un ensemble d'hommes qu'on appelait des juges et qui jouaient un rôle autant politique que religieux et qui étaient les responsables du peuple d'Israël. Et Samuel est le dernier juge. Et il va être le dernier juge, prophète de l'Éternel, qui va ouvrir l'entrée au roi. C'est lui qui va consacrer le premier roi d'Israël. Donc on a donc tous des juges jusque Samuel, et puis à partir de Samuel, ce sera les rois qui vont entrer en scène dans le peuple d'Israël. C'est lui, le prophète Samuel, qui va oindre le premier roi, et 2 livres de la Bible sont consacrés à son histoire. C'est dire que c'est un homme important dans la Bible. Il est marquant de voir que les 2 livres de Samuel, vous les avez déjà certainement lus, nous racontent des histoires importantes. On a vraiment des enjeux essentiels. On nous parle justement de l'institution des rois, on nous parle des guerres d'Israël, on nous parle de l'installation de David, mais aussi de la succession de David. On nous parle de grands sujets, des sujets d'envergure pour l'ensemble du peuple. Mais au tout début du premier livre de Samuel, nous avons un zoom sur l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. C'est un livre, si vous le lisez, qui nous parle d'enjeux nationaux, mais qui commence par un zoom sur l'histoire d'une femme, de la réalité qu'elle a vécue. C'est un zoom sur l'histoire de Samuel et sur comment il est venu au monde au travers de l'histoire de sa mère. Alors nous rencontrons dans ce texte Anne. Premièrement, vous l'avez lu, vous l'avez compris, Anne est une femme en souffrance. C'est une femme qui peine. Elle est mariée à son mari Elkana et celui-ci a deux femmes. C'était permis dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, pour rappel. Hein, parce que... Il avait deux femmes et sa rivale, puisque c'est l'expression consacrée, sa rivale, Pénina, avait des enfants alors que Anne n'en avait pas parce qu'elle était stérile. Anne était aimée de son mari, mais elle était mortifiée, dit la Bible, par les remarques et les moqueries de sa rivale Pénina. Il faut se dire non seulement que Anne souffrait du fait de ne pas avoir d'enfants, ce qu'elle souhaitait, donc premièrement elle souffrait de sa souffrance personnelle, mais aussi elle souffrait de l'humiliation sociale, puisque à l'époque c'était une humiliation, mais en plus de ça elle souffrait d'être moquée et humiliée par sa rivale. Et la Bible, en tout cas c'est une traduction, mais la traduction est quand même très bien, la Bible nous donne quand même une expression qui est importante, elle était mortifiée. Mortifiée par les humiliations et les moqueries de sa rivale. Mortifiée, c'est un terme fort, c'est vraiment l'idée que chaque remarque, chaque regard, chaque comportement de sa rivale mettait la mort dans son âme. Elle était mortifiée, elle était attristée, elle était profondément humiliée, elle était marquée par la souffrance que lui procurait sa rivale au point qu'elle ne mangeait pas. Et le texte utilise l'expression « elle avait l'amertume dans l'âme, elle avait la tristesse dans l'âme, elle était triste, elle était complètement démoralisée ». Et quand on lit l'histoire d'Anne, parce que évidemment l'histoire se déroule sur plusieurs années, hein, on nous dit que Pénina avait plusieurs enfants, donc ça a duré. Quand on lit l'histoire d'Anne, on n'a pas de difficulté à imaginer le type d'émotion qu'elle devait vivre. Tristesse, incompréhension, perte de sens, baisse d'estime de soi. Elle souffrait véritablement. On peut imaginer ses émotions, mais on peut aussi imaginer tous ensemble ce matin les questions qui montaient dans son âme. Pourquoi a-t-elle droit à des enfants et pas moi ? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il ne me fasse pas grâce ? Est-ce qu'un jour ça changera ? Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas heureuse comme toutes les autres mamans ? Anne souffrait profondément de sa situation et des conséquences de sa situation. Et peut-être aussi qu'il y a aujourd'hui des femmes qui souffrent, pas forcément de cela, mais d'autre chose, des femmes, des mamans qui souffrent peut-être de ne pas avoir des enfants qui marchent avec Dieu, d'avoir des enfants qui sont perdus dans la vie, d'avoir des enfants avec qui elles sont en conflit, d'avoir des enfants qui sont en souffrance, qui sont malades peut-être. Peut-être qu'il y a aussi des femmes qui souffrent aussi de comment elles sont traitées par leur mari, qui souffrent de ce qu'elles vivent, qui souffrent de leurs rêves déçus, qui souffrent de tout ce que le Seigneur n'a pas fait dans leur vie, de ce que Dieu n'a pas fait dans leur existence. Alors c'est vrai pour les femmes, mais c'est peut-être vrai aussi pour certains hommes dans cette salle. Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes mortifiés par certaines choses, par certains domaines dans lesquels nous n'avons pas vu la main de Dieu se manifester, dans lesquels nous n'avons pas vu Dieu agir. On nous entend parler de ce Dieu qui agit, qui fait des choses merveilleuses et tout ça, mais nous, nous n'avons pas eu droit à cela. Anne est une femme qui souffre, oui. Elle a l'amertume dans l'âme, oui. Elle est méprisée, oui. Elle n'a pas ce qu'elle veut, oui. Rien ne va dans sa vie, oui. Mais Anne est une femme qui se confie en l'Éternel. Le texte nous montre que malgré que rien ne va pour elle, Anne garde confiance en Dieu et c'est vers lui qu'elle se tourne pour obtenir son secours. Il reste son espoir, il reste son refuge, il reste celui à qui, vers qui elle veut se tourner. Elle souffre, elle peine, mais elle continue à chercher Dieu de tout son cœur et elle continue à chercher en lui le secours et la délivrance dont elle a besoin. Anne nous enseigne la confiance en Dieu malgré la souffrance. Elle nous enseigne la confiance en Dieu malgré la mortification. Elle nous enseigne la confiance en Dieu malgré que rien ne va, malgré que rien n'est correct, malgré que la vie est injuste. Parce que si on lit l'histoire, c'est injuste, parce que cette Pénina, non seulement elle a des enfants, mais c'est une femme méchante. Hein, comme vous avez certainement déjà entendu vos amis et les gens dire, ouais, c'est toujours les plus gentils qui souffrent et les méchants n'ont rien. Ben là, c'est vrai. Elle était méchante, c'était une femme mauvaise, mais elle avait tout pour être heureuse. Et malgré que Anne vivait cela, et malgré qu'elle observait cela, et malgré qu'elle était mortifiée par cela, elle avait gardé le cœur de la confiance en Dieu pour se dire, Seigneur, je veux me tourner vers toi, je veux te prier, je veux continuer à te faire confiance, je veux continuer à t'invoquer, malgré que ça n'avance pas pour moi. Et on lit dans l'histoire que Anne avait gardé sa piété. Elle montait régulièrement à la maison de l'Éternel. Une fois elle est montée, là en particulier, elle priait devant Dieu, elle a répandu son âme devant Dieu, elle a accueilli avec reconnaissance la parole du serviteur de Dieu. Anne était une femme pieuse qui connaissait Dieu, elle marchait avec Dieu et sa souffrance ne changeait rien à la confiance qu'elle avait. Elle continuait malgré tout à se confier en lui et à marcher avec lui. Très souvent, il nous arrive de tomber dans deux extrêmes, soit nous abandonnons Dieu quand tout va bien, soit nous abandonnons Dieu quand tout va mal. Donc quand tout va bien, on n'en a plus besoin. Et quand tout va mal, on ne veut pas se tourner vers lui parce que quelque part, on se dit que si ça ne marche pas pour nous, c'est un peu de sa faute. Anne, malgré sa souffrance, a choisi de rester en contact avec Dieu et elle a choisi de continuer à le chercher. Et nous avons tant de fois dans la Bible l'exhortation, n'est-ce pas? L'exhortation, premièrement, à nous confier en Dieu. L'exhortation à chercher en lui notre secours. L'exhortation de chercher notre secours en lui. La Bible nous exhorte à nous confier en Dieu. Elle nous l'enseigne, Anne, cette femme que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Elle nous enseigne à nous confier en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, dit la Bible, car l'Éternel est le rocher des siècles. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Confions-nous en l'Éternel. Plaçons notre confiance en Dieu. Faisons-lui confiance malgré que rien ne va, malgré que la vie est injuste. Anne nous enseigne à malgré tout lui faire confiance. À lui faire confiance, mais aussi, deuxièmement, à chercher auprès de lui notre secours, à chercher auprès de lui notre délivrance, à nous adresser à lui par rapport à nos besoins et à nos difficultés. Il est écrit dans la Bible, Voici, Dieu est mon secours, l'Éternel est le soutien de mon âme. Quand on lit l'histoire d'Anne, c'est ce qu'on voit. Elle va chercher en Dieu, elle va chercher chez Dieu. Dieu est le soutien de son âme et c'est vers lui qu'elle répand son âme. C'est à lui qu'elle dit que ça ne va pas, c'est à lui qu'elle demande de l'aide. 1 Chronique 16, verset 11 nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Donc, ayez recours à Dieu et à son appui. Allez vers Dieu, demandez à Dieu et qu'il soit votre appui. Elle s'est appuyée sur Dieu. Et quand on voit l'histoire, on se rend bien compte que elle souffrait, elle s'appuyait sur Dieu, mais elle c'était pas une petite, elle n'était pas toute joyeuse, hein. Elle s'appuyait sur Dieu, mais c'était difficile. Et parfois, dans nos vies, c'est comme ça aussi. La confiance en Dieu ne nous amène pas à devenir des gens complètement en dehors de la réalité, à ne plus voir nos problèmes. Parfois, c'est dans la souffrance, c'est avec de la souffrance. Elle souffrait, mais elle faisait aussi confiance à Dieu. On peut être dans la souffrance et en même temps faire confiance à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est triste, ce n'est pas parce qu'on peine que nécessairement on va perdre la confiance. Les deux sont présents. Elle vit sa souffrance, mais malgré tout, elle se confie en Dieu. Ayons recours à Dieu, ayons recours à lui pour nos situations. Alors certainement que dans vos vies, ce n'est peut-être pas la même chose que Anne. Mais nous avons tous des raisons peut-être d'être mortifiés dans nos âmes. Et par rapport à ces raisons-là, la Bible nous exhorte à nous confier en l'Éternel et à chercher en lui notre secours. Il y aurait eu beaucoup de comportements alternatifs pour Anne. Beaucoup. Premièrement, elle aurait pu, bien sûr, évidemment, abandonner sa piété. Elle aurait pu ne plus prier, ne plus se tourner vers Dieu. Elle aurait pu maudire Dieu, comme dit la femme à Job. Maudit ton Dieu et meurs. elle aurait pu rejeter Dieu. Et il y aurait eu des raisons. Mais mettez-vous à sa place 4 secondes, il y a de quoi rejeter Dieu. Il n'y a rien de plus injuste que ça. Et en plus, ses mortifications avec Pénina, ce n'est pas de temps en temps. Elle doit le subir. Elle aurait pu rejeter Dieu, mais elle ne l'a pas fait. Anne aurait pu aussi chercher une solution par ses propres moyens. Elle aurait pu, par exemple, voler le bébé d'une autre dame. Il faut savoir que ça se faisait à l'époque. Elle aurait pu, comme a fait Sarah, demander à son mari d'enfanter sa servante pour avoir une solution et pour avoir un bébé quand même. Anne aurait pu aussi faire du mal à sa rivale pour apaiser sa souffrance, par exemple en tuant un de ses enfants. Ça se faisait à l'époque. Elle aurait pu aussi, Anne, devenir cassante, désagréable, invivable avec son mari, manifester de la haine ou de la rancune envers lui. Elle aurait pu faire tout cela. Mais au lieu de cela, elle s'est confiée en l'Éternel. Tous ces comportements qu'elle aurait pu avoir auraient été des signes, justement, de manque de confiance en Dieu, de se dire, ben, puisque c'est comme ça, j'arrange la situation moi-même, je trouve des solutions, je tue un enfant, je trouve une solution pour en avoir un. Elle aurait pu, mais elle a choisi de faire confiance à Dieu. Elle ne s'est pas non plus confiée dans un homme, dans une personne autour d'elle. Elle n'a pas essayé de trouver une solution de son propre cru. Elle s'est tournée vers Dieu. Il est fort possible que nous ayons, nous aussi, des situations qui nous semblent insurmontables, pénibles, injustes et qui mettent l'amertume dans notre âme. Et nous pourrions, peut-être que ça vous est déjà arrivé, petit filou que vous êtes. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'être aussi tenté d'abandonner votre piété. En disant, si j'ai comme ça, d'abandonner votre attachement à Dieu ou de chercher des solutions humaines parce que Dieu ne répond pas à votre prière. Nous pourrions être tentés de nous opposer à sa volonté pour le fuir et pour le mettre loin derrière notre dos. Mais le Seigneur nous invite à nous tourner vers lui, quel que soit le temps depuis lequel la situation dure. Parce que parfois on dit oui, mais ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà 10 ans. Quel que soit le temps depuis lequel la situation dure, Dieu nous invite à nous tourner vers lui. Notre regard ne doit pas être fixé sur le problème. Notre regard ne doit pas être fixé sur une personne qui devrait trouver une solution. Notre regard ne doit pas être tourné sur nous-mêmes. Notre regard doit être tourné sur Dieu seul. Et l'expression biblique est très forte et très belle. On est invité à se confier en Dieu. Alors si vous prenez la préposition en français, ça veut dire quelque chose. Confiez-vous en l'Éternel. C'est-à-dire mettez toute votre confiance, toute votre attente, toute votre prière, mettez-la en Dieu, chez Dieu, près de Dieu. Faites reposer tout votre espoir pour votre vie, pour votre avenir sur Dieu. Car il n'est pas sourd à vos prières, et comme il l'a fait pour Anne, non seulement il entend, mais en plus, il exauce. Alors, est-ce que tout le monde est exaucé? Certainement pas, mais tout le monde est entendu. Tout le monde est toujours entendu. Et quel que soit ce type d'obstacle devant lequel nous sommes, nous pouvons être certains que Dieu n'est pas désintéressé par notre situation. Que nous soyons maman ou pas, que nous soyons dans cette situation ou pas, nous pouvons être certains que Dieu n'est pas désintéressé par notre situation. En réalité, il y a quelque chose de particulier dans ce texte. Vous avez vu, peut-être que l'expression vous a marqué, vous avez vu que le texte dit au verset 5, « Anne que l'Éternel avait rendue stérile ». Alors c'est quelque chose de difficile parce qu'on voit clairement que la stérilité d'Anne n'était pas du fait de la nature, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un problème. Voilà, c'était Dieu qui volontairement avait rendu Anne stérile. Et nous voyons derrière cela que Dieu l'a fait pour manifester sa gloire. Vous avez déjà remarqué, et je le dis parce que c'est bibliquement quand même souvent le cas, Ce qui ne veut pas dire que c'est une règle dans la vie, mais en tout cas dans la Bible, c'est très souvent. Certains commentateurs remarquent que pratiquement à chaque fois que la Bible dit qu'une femme est stérile, pratiquement à chaque fois, à un moment donné, elle enfante. On prend l'exemple de Sarah, dont on nous dit qu'elle était stérile, finalement elle a eu un enfant. On prend l'exemple de Rachel, qui était stérile, finalement elle a eu un enfant. On prend l'exemple d'Élisabeth qui était stérile et qui finalement a eu un enfant. Qu'est-ce que ça nous montre cela ? Ça nous montre simplement que Dieu avait permis cette circonstance volontairement dans leur vie pour manifester sa gloire. Ce n'étaient pas des circonstances que Dieu avait prévues de façon définitive pour leur faire du mal, mais que c'était des circonstances derrière lesquelles Dieu avait un plan. Et à chaque fois que Dieu a répondu à la prière en donnant un enfant, ça a été un enfant d'un autre cru, comme Samuel, comme Jean-Baptiste. Des enfants extraordinaires, c'était des gens qui avaient une mission extraordinaire. Donc derrière l'obstacle que Dieu avait mis volontairement dans leur vie, il y avait la gloire de Dieu, il y avait un plan de Dieu, il y avait quelque chose, mais qu'elle ne voyait pas. Vous vous souvenez quand Jésus dit devant le tombeau de Lazare, « Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est-à-dire que il est là en train de dire cet obstacle-là que j'ai mis dans sa vie, ce problème-là n'est pas un problème qui est définitif ou qui est vraiment pour te mettre dans le trou, c'est un problème derrière lequel j'ai prévu une solution glorieuse qui va élever mon nom et qui va toucher des vies. Et bien sûr que c'est difficile à croire, frères et sœurs. Et bien sûr que c'est difficile à accepter dans nos cœurs. Mais il arrive que certains obstacles, certaines épines de nos vies soient des épines derrière lesquelles Dieu a une solution glorieuse. Il arrive qu'une maladie dans nos vies soit une maladie derrière laquelle Dieu a quelque chose de glorieux. Il arrive qu'une situation difficile de famille soit une situation derrière laquelle Dieu a quelque chose de glorieux. Il arrive qu'un échec, qu'un conflit, qu'une situation qui nous met à terre soit quelque chose derrière lequel Dieu a quelque chose de glorieux. Évidemment, en gardant confiance en Dieu, comme Anne, nous pouvons avoir l'occasion de voir ce que Dieu a prévu derrière cet obstacle. Mais nous devons nous souvenir de cela. Nous devons nous souvenir que derrière ces obstacles, Dieu a très souvent prévu quelque chose de glorieux, quelque chose qui va manifester sa gloire. C'était le cas pour Anne, elle a enfanté un des plus grands hommes de Dieu de toute la Bible. Et vous savez, une des caractéristiques de Samuel dans la Bible, c'est que c'est un des hommes de Dieu, c'est un des rares dans la Bible, dont on n'a aucun point négatif évoqué. Vous avez plein d'autres, David, on connaît qu'il a une tâche, Moïse, il avait une tâche. Samuel, à part que, bon, après, il avait des enfants qui ne suivaient pas Dieu. Mais bon, la Bible ne lui impute pas. Mais à part ça, dans son histoire, nous n'avons aucun point négatif. C'était un des plus grands hommes de Dieu de la Bible. Deux livres rien que pour lui. Derrière sa difficulté, derrière sa souffrance, il y avait le plan de Dieu. Petite remarque en passant. Nous voyons que Anne avait la vertu de se confier en Dieu, de chercher en Dieu son secours, mais Anne avait aussi la vertu d'être une femme attachée à Dieu. C'était une femme vertueuse dans son comportement, c'était une femme qui connaissait les principes de Dieu. Elle connaissait les principes de Dieu et elle savait à quoi elle devait faire attention. Et cela a été important dans son miracle. Voyez-vous que Élie, vous l'avez lu dans le texte, pensait que Anne était ivre. Et il lui a parlé de façon très rude, pas sympa du tout en réalité. Il lui a parlé de façon rude en lui disant « Va cuver ton vin, qu'est-ce que tu fais là ? Dégage en gros. » Mais nous voyons que Anne lui répond de façon très respectueuse et très douce. Elle dit « Mon Seigneur, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » On peut se demander, qu'est-ce qui se serait passé si Anne avait remballé le grand prêtre Élie ? Qu'est-ce qui se serait passé si Anne lui avait dit, Écoute, mêle-toi de tes oignons. Vous avez vu dans le texte, et vous verrez que vous relirez à la maison tout à l'heure, que c'est suite à la bénédiction d'Élie que Anne va enfanter. Et quand elle aura ses autres enfants, ce sera encore suite à la bénédiction d'Élie. Il va lui dire que l'Éternel te soit favorable. Et c'est juste après qu'on nous dit, après elle mangea et son visage ne fut plus le même. La bénédiction d'Élie a ouvert la porte à ce que Anne puisse enfanter. Qu'est-ce qui se serait passé si Anne lui avait dit « ça ne te regarde pas » ou alors « mais tu ne comprends vraiment rien, espèce de vieux fou ». Ça, ce serait en mode 2025. C'était une femme qui savait avoir les attitudes de Dieu. Elle savait à quoi elle devait faire attention. Elle savait devant qui elle se trouvait. Et elle savait que ça lui demandait d'être vigilante à sa réaction. Et sa réaction a été tellement douce. Et elle a pu présenter son problème que le grand prêtre Élie, qui avait cette autorité de Dieu, qui avait cette autorité de bénédiction de Dieu, c'est pour ça que finalement elle est exaucée, va lui dire « Vas en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Cela nous enseigne et nous montre que les choses que Dieu fait dans nos vies sont aussi des choses qui nous appellent, nous, à être attentifs à nos comportements, à nos actions, à nos réactions, à nos façons de parler avec les autres, à nos façons d'agir avec les autres, à nos façons de nous comporter. Parce qu'un mauvais comportement de notre part peut aussi faire un obstacle à ce que Dieu veut faire. Je reprends la même situation, 2025, Élie est le pasteur de Anne. Il lui dit une réflexion qu'il n'aurait pas dû faire en 2025, il se serait ramassé une bonne torgnole. Sainte Whitney, testin. Elle a eu la sagesse de savoir comment il fallait répondre. Et que cela nous interpelle aussi. Parce que beaucoup de fois dans le monde chrétien, nous voyons combien les chrétiens peuvent être remplis du Saint-Esprit, mais très peu courtois. Remplis du Saint-Esprit, mais très mal poli, rempli du Saint-Esprit, mais ne respectant pas les autres. Le respect qu'elle a eu pour cet homme en particulier a ouvert une porte à ce qu'elle puisse être bénie. Fermons la parenthèse. Nous voyons aussi que Anne, en plus d'être une femme qui se confie en Dieu, est une femme qui a consacré à Dieu ce qu'elle a de plus précieux. Anne va faire une prière qui va retenir, qui doit retenir notre attention. Vous voyez que Anne dit à l'Éternel, « Si tu me donnes ce fils, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Il y a là un paradoxe qui certainement doit vous avoir fait tribuler dans votre chair en lisant le texte, si vous avez lu attentivement. Il y a un paradoxe, vous êtes d'accord? Il y a un truc bizarre dans ce texte, c'est pas logique. Elle veut un enfant. Elle veut un enfant pour elle, parce qu'elle a envie d'avoir un bébé. Et elle dit, si tu me donnes un enfant, je le donne à l'Éternel pour toute sa vie. Ben, il y a un truc pas logique, parce que si tu le donnes à l'Éternel, tu ne l'auras plus. Elle veut un enfant, mais malgré tout, elle trouve que si jamais elle l'a, elle va l'offrir à Dieu. Et vous, vous connaissez l'histoire. La consécration, le naziréat de Samuel, c'est un naziréat exclusif et complet. C'est-à-dire que dès que l'enfant est sevré, il part au temple et c'est terminé. Elle pouvait aller le voir de temps en temps, lui amener un petit vêtement, c'est terminé, il appartient à Dieu. Il n'est plus à toi, ce n'est plus ta propriété, il appartient à Dieu, il appartient au service de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Anne a ce réflexe-là? En tout cas, ce que ça nous enseigne, c'est que Anne était une femme qui ne priait pas et sa prière n'avait pas un motif purement égoïste. Elle ne demande pas ce fils uniquement pour son petit plaisir à elle, pour sa fierté. Oui, bien sûr qu'elle voulait enfanter, bien sûr qu'elle ne voulait plus être dans l'opprobre, bien sûr. Mais c'était une femme qui, bien plus que ça, avait à cœur les intérêts de Dieu, la gloire de Dieu, le service de Dieu. Et donc elle dit, Seigneur, je veux un enfant. Je te demande un enfant, c'est ce que je veux, mais en même temps, si je l'ai, je veux bien te le consacrer. Je veux bien qu'il soit pour toi, je veux bien qu'il te glorifie, je veux bien qu'il soit mis à part pour toi. Elle ne voulait pas un enfant qui soit sa bénédiction privée, mais elle voulait une bénédiction qui puisse aussi être à la gloire de Dieu, qui puisse aussi faire plaisir à Dieu, qui puisse aussi élever le nom de Dieu. Elle ne voulait pas juste satisfaire ses passions et ses envies, bien légitimes, mais elle voulait aussi offrir à Dieu ce qu'elle avait reçu. Et elle a offert à Dieu ce qu'elle avait de meilleur. Son fils, son truc le plus précieux, le sujet de sa prière, elle l'a offert à Dieu. Anne était une femme qui se confiait en Dieu, mais c'était aussi une femme qui avait à cœur de mettre ce qu'elle avait de plus précieux à part pour Dieu. Elle avait à cœur de donner ce qu'elle avait de plus précieux à Dieu. Elle considérait tellement Dieu qu'elle était d'accord de lui donner ce qu'elle avait de plus précieux. C'est une caractéristique des hommes et des femmes de foi que vous êtes, n'est-ce pas? Les hommes et les femmes de foi sont des gens qui considèrent que toute leur vie appartient à Dieu et qui sont prêts à donner ce qu'ils ont de plus précieux à Dieu. Ça, c'est une caractéristique essentielle de la foi. Les chrétiens fervents donnent ce qu'ils ont de plus précieux à Dieu. Comment le savons-nous? Eh bien, nous avons l'exemple du Père de la foi. Le Père de la foi nous a montré que une des caractéristiques des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu, c'est qu'ils sont d'accord de donner à Dieu ce qu'ils ont de plus précieux. Abraham a été d'accord d'offrir son fils en sacrifice et Anne ici a été d'accord d'offrir son enfant à Dieu. Ce qu'ils avaient de plus précieux, ils étaient d'accord de le donner à Dieu. C'était des personnes qui n'étaient pas juste concernées par eux-mêmes, mais par Dieu, par sa gloire, par sa volonté, par son plan, frères et sœurs. C'est ça un chrétien. Je suis d'accord, Seigneur, je vois tes intérêts, je vois ta gloire. Je vois pas juste ma petite vie, mon petit confort, mes petites tartines, mon petit choco, ma petite confiture. On peut être chrétien et être comme ça, savez-vous? Obsédé par nous-mêmes, par nos vies, et désintéressé par Dieu, par sa gloire, par son royaume. Ce n'était pas ainsi pour Anne. Sommes-nous aussi de ces gens qui sont d'accord d'offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de plus cher, ce beau petit truc qui nous appartient, cette belle petite voiture, ce beau petit costume, ce beau petit compte en banque, notre petite vie à nous. Qu'est-ce que je suis prêt à donner à Dieu? Demandez-vous un petit peu. C'est pas grave, hein. Souvent dans l'intimité de notre cœur, on peut répondre, hein. Et parfois, on peut répondre, pas grand-chose. On pourrait, ce n'est pas un problème. Hein. Parce que ça nous aiderait à nous dire, Seigneur, mais où est-ce que j'en suis, moi? Où est-ce que j'en suis? Déjà, Anne, elle se confie en Dieu, elle n'abandonne pas Dieu, elle lui donne son fils, elle avait compris qu'il n'y avait pas qu'elle qui comptait et elle avait un amour pour Dieu qui dépassait sa petite personne, ses petits intérêts. Et elle était intéressée par le royaume de Dieu. Quand vous lisez ça, vous comprenez le fameux verset qu'on rabâche tout le temps. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses vous seront données par-dessus. Anne a donné son seul fils, ce qu'elle avait de plus précieux, et Dieu lui a donné d'autres enfants après. Ça, c'est le surplus. Tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches la gloire de Dieu, tu cherches ce qui plaît à Dieu. Allez, bénédiction. Elle ne le savait pas à la base, hein, évidemment. La première fois, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas qu'elle aurait des enfants. Mais ensuite, elle est retournée près d'Élie. Elle devint enceinte, dit la Bible, c'est 1 Samuel 2, 21, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Donc non seulement la petite Anne, elle a un fils qui est consacré au service de Dieu, qui va être un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, mais en plus, Dieu lui a donné pour son plaisir à elle d'autres enfants. Et pas juste, elle en a reçu 5 en plus. Voyez-vous comment Dieu fonctionne? Autre exemple dans la Bible, où nous voyons le même principe. Dieu vient demander à Salomon, « Salomon, qu'est-ce que tu veux ?» Seigneur, écoute, moi, si j'ai juste un peu de sagesse pour gérer ton peuple, je suis content. pour bien m'occuper de ton peuple, de tes enfants, pour ta gloire, pour que tout te glorifie, pour que tout soit pour toi. Donne-moi juste de la sagesse et je serai content. Ah, tu ne veux que la sagesse, Salomon ? Eh bien, comme tu ne veux que la sagesse, je te donnerai en plus la gloire et les biens. Voilà. Tu as cherché mon royaume, tu as cherché ma justice. Eh bien, je te donne en plus pour ton propre plaisir. C'est ce Dieu aussi que nous avons. C'est aussi un Dieu qui bénit. C'est aussi un Dieu qui fait du bien. Et nous ne devons pas l'oublier. Anne est enfin une femme qui accomplit ses vœux. Vous avez vu que finalement, elle amène bien son fils, comme prévu. Elle aurait pu changer d'avis. Oui, mais j'avais oublié, je ne savais pas, j'étais triste. J'ai dit ça, mais je n'avais plus mes esprits. Non. Je l'ai dit, je le fais. Et nous avons dans la Bible une dizaine, dans les psaumes, une dizaine d'allusions à cela. Par exemple, « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple », psaume 116. « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce. » Les psalmistes mettent en jeu dans leur prière, dans leur louange, d'une part dans une main la louange, l'action de grâce, je t'offrirai des actions de grâce, mais aussi j'accomplirai mes vœux envers toi. Anne était une femme qui accomplissait ses vœux devant Dieu. Elle faisait ce qu'elle avait dit. Et nous voyons que nous sommes tous exhortés à accomplir nos vœux devant l'Éternel. Ce que nous avons pris comme vœux, à les accomplir devant Dieu. Alors, il y a nos vœux officiels, parce que souvent, on ne pense qu'à ça, mais nos vœux officiels, bien sûr, qu'il y a les vœux officiels qu'on a faits à Dieu. Mais il y a aussi les résolutions qu'on a prises dans notre cœur, parfois. Les engagements qu'on a pris, que nous sommes aussi invités à tenir devant Dieu. Ça peut être nos vœux officiels que nous sommes appelés à tenir devant Dieu. Nos vœux de mariage, nos vœux de baptême. « Seigneur, je te suivrai pour toujours. » Nous sommes appelés à vivre ça. Nos vœux de présentation d'enfants. « Seigneur, j'instruirai mes enfants dans ta parole. » Nos vœux liés à notre service de Dieu. « Seigneur, je prendrai soin de ton Église. » Nous sommes invités à accomplir ces vœux devant l'Éternel. À ne pas dire oui, à ne pas faire des vœux et puis à les prendre à la légère. Mais à les vivre devant Dieu. Mais il y a aussi toutes les résolutions qu'on avait prises dans notre cœur. Vous voyez ces petites résolutions qu'on avait prises dans notre cœur. Alléluia, alléluia. Eh bien, nous devons les vivre aussi. Seigneur, je veux un mari avec qui je vais pouvoir te servir. Ah, ça va, je te donne un mari. Il faut me servir avec maintenant. Seigneur, si j'ai ce travail, je prendrai du temps pour toi. Et puis une autre que malheureusement on fait. Seigneur, si je réussis mes examens, je m'engagerai pour toi. Seigneur, si tu me donnes une famille, je me consacrerai, je te la consacrerai. Ah non, mais vraiment, dès que je serai retraité, j'œuvrerai à l'évangélisation. Hein. Combien de retraités ne disent pas « quand je serai retraité, quand je serai retraité ». Gino, il a déjà dit ça. Seigneur, quand je serai retraité, je te servirai plus. C'est pour ça que quand Gino sera retraité, ce sera 52 dimanches, Gino qui prêchera. Tous les dimanches de l'année, ce sera Gino. Mais il y a Patrick qui sera retraité avant. Donc toutes les présidences de l'année, Patrick. Donc quand on aura Gino et Patrick à la retraite, vous ferez le programme à deux. Seigneur, je vais soutenir cette œuvre chrétienne. Seigneur, je vais être plus assidu au culte. Seigneur, je vais plus lire ma Bible. Seigneur, je vais plus parler avec les frères et sœurs. Tous ces engagements que nous avons pris dans notre cœur, toutes ces résolutions, nous sommes appelés à les vivre. Mais les engagements que nous avons pris aussi, l'engagement que nous avons pris à aider une personne, l'engagement que nous avons pris à être parrain, marraine d'un enfant, l'engagement dans un ministère, l'engagement à prier pour une personne ou pour une œuvre, ou alors aussi, peut-être que parfois ça vous est arrivé d'avoir ça aussi, les engagements à changer d'attitude qu'on fait souvent et qu'on ne tient pas. Seigneur, je vais faire attention à ce qui sort de ma bouche. Eh bien, c'est bien, fais-le maintenant. Seigneur, je vais faire attention à comment je m'habille. Seigneur, je vais m'abstenir de ce genre de film. Tous ces vœux, tous ces engagements, toutes ces envies, toutes ces résolutions, nous sommes appelés à les vivre. Et pour conclure, Anne était aussi une femme qui était reconnaissante à Dieu. Il n'y a pas très longtemps, on a encore évoqué l'histoire de ces lépreux qui sont guéris par Jésus, qui ne reviennent pas lui dire merci. Et puis de ce seul lépreux qui lui vient, qui dit « Ah, merci Seigneur ». C'était cette femme-là. Elle était reconnaissante à Dieu. Elle a écrit tout un cantique. Vous lirez le chapitre 2. Anne a écrit tout un cantique pour glorifier Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples chez cette femme ce matin. Nous avons l'exemple d'une femme qui a fait confiance à Dieu malgré la souffrance. L'exemple d'une femme qui avait un comportement vertueux en toutes circonstances, même quand elle était vexée. L'exemple d'une femme qui avait à cœur de consacrer ce qu'elle avait de plus précieux à Dieu, de ne pas le garder juste pour elle, mais d'offrir à Dieu. Et l'exemple d'une femme aussi qui accomplissait ses vœux envers l'Éternel et qui vivait l'action de grâce, la reconnaissance envers Dieu. Alors ce matin, laissons-nous tous instruire par l'exemple de Anne. Cette maman que nous mettons à l'honneur ce matin, elle peut nous instruire dans différents domaines. Peut-être pour certains de se dire « Bon Seigneur, c'est vrai que c'est pénible ma situation, mais je vais quand même encore te faire confiance. » Ou pour d'autres de dire « Bon Seigneur, c'est quand même un peu vrai que mes vœux envers l'Éternel, je ne les ai pas tenus, quand même aide-moi. » Ou pour d'autres encore de dire « Seigneur, je veux te consacrer ce que j'ai de meilleur. » Ou alors « Seigneur, je dois quand même revoir mes comportements parce qu'ils peuvent faire obstacle à ta grâce. » Dans tout un ensemble de domaines, nous pouvons tirer quelque chose de la vie de Anne. Alors je voudrais que nous puissions prendre un court temps de silence, incliner nos têtes, et puis que pendant ce temps, chacun se dise « Tiens Seigneur, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple dans la vie de Anne ?» Prenons un temps court de silence maintenant. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Te prions, Seigneur, de nous aider tous à la recevoir dans nos cœurs, de nous aider tous aussi à voir dans quelle façon nous pouvons faire pour pouvoir prendre exemple de cette servante. Son histoire est dans la Bible pour nous instruire, Seigneur. Aide-nous les uns et les autres à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin et à pouvoir, Seigneur, adapter nos vies, nos comportements à ce que nous avons reçu dans ce texte biblique. Au nom de Jésus. Amen.